Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à tous, nous sommes le mercredi 25 juillet et nous enregistrons cet épisode du Super Daily en direct depuis les bureaux de Super Natif aux 3 rues de la République. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Salut Adjan, c'est parti.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Oui, ça y est, c'est parti. Et puis, ça fait 10 jours qu'on est champion du monde, donc tout va bien et ça va être encore le cas pour un petit peu plus de 4 ans. Ça va toi ?
Ouais, ça va super. D'ailleurs, je me faisais la remarque mais à peine hier soir, tu vois que c'était finalement assez calme. Hein, je me souviens que 98, pendant au moins 5 ans, allez, au moins 20 ans, on avait parlé de cette Coupe du Monde. Et là, finalement, bon, on était presque déjà passé à autre chose, tu crois pas ?
Oui, effectivement, j'ai l'impression que ça n'a pas une durée de vie, même dans les médias, très longue. Alors, il y a eu des affaires politiques là qui ont un peu pris la place au niveau de l'actualité. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est peut-être dû à la différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le temps que dure une information dans les médias de manière générale et sur les réseaux. Mais ça fera peut-être l'œuvre d'un super délit une autre fois. De quoi on parle aujourd'hui, Thibaut ?
Écoute, aujourd'hui, on va parler des faux influenceurs. Chers amis, sortez les arbalètes, la chasse est ouverte.
On parle même de chasse aux sorcières. Alors, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop quand même ? Est-ce que c'est pas des, entre guillemets, des gros mots par rapport à ce qui se passe vraiment ?
Déjà, on peut expliquer ce qui se passe, hein, parce que ce qui se passe, c'est que, vous le savez, l'influence marketing, on en a déjà parlé et on en reparlera dans les années à venir. L'influence marketing, c'est l'outil actuellement en vogue et extrêmement puissant par lequel les marques utilisent l'influence de gens présents sur les plateformes sociales pour mettre en avant leurs produits ou leurs services. Et ça, on appelle ça des influenceurs. Évidemment, la quête, c'est la recherche d'un retour sur investissement. C'est-à-dire, on va offrir un cadeau, une dotation, on va potentiellement même payer un influenceur en échange d'une visibilité et on a la recherche donc d'un ROI.
Un retour sur investissement qui n'est pas toujours très simple à calculer, même si maintenant il existe un peu plus de techniques pour pouvoir le faire. Mais je ne pense pas qu'on va parler de ça aujourd'hui puisque tu voulais parler des fake influenceurs. Donc, les fake influenceurs, moi j'ai un ou deux chiffres dessus, si ça t'intéresse, ça va sûrement étayer le débat. On sait que, par exemple, 40% des influenceurs sont touchés par l'achat de likes et de faux followers, donc ça c'est quand même quelque chose qui est embêtant pour les marques qui veulent travailler avec eux. Et j'ai un autre chiffre aussi là qui vient de Twitter, donc c'est un autre type d'influenceur, mais 15% des comptes Twitter seraient des bots, et ce qui ferait à peu près 48 millions de faux comptes sur Twitter. Donc, ce qui permettrait par exemple d'avoir rapidement, on peut imaginer, un compte avec plusieurs millions d'utilisateurs et qu'en fait tout ça soit du fake.
Ouais, c'est énorme. Donc forcément, pour ceux qui investissent beaucoup d'argent sur les plateformes sociales et sur l'influence marketing, c'est un énorme problème. Pour compléter tes chiffres, il y a une étude intéressante qui a été sortie par Point North Group, hein, qui est un groupe américain qui propose des solutions d'influence marketing, en avril 2018, qui faisait une liste, alors c'est cruel, mais c'est vrai, la liste des 10 annonceurs s'étant le plus fait berner par des faux influenceurs. Et on peut voir par exemple que de façon non exhaustive, je vais en lister deux, hein. Ritz-Carlton, donc les hôtels de luxe, 78% des followers touchés par les posts influence marketing pour lesquels ils ont payé étaient faux. L'Occitane, c'est 39% de fake followers, donc c'est vraiment énorme. Donc forcément, quand on disait la chasse est ouverte, vous imaginez bien que ça commence à faire un petit peu mauvais genre chez les marques et chez les marketeurs.
Oui, ça fait vraiment des chiffres qui sont assez énormes là, quand tu me parles de plus de 70% effectivement des marques qui payent pour toucher 70% de bots. Ça ne doit pas leur faire plaisir. Et je pense que c'est quelque chose qui... Cette histoire de fake influenceur, c'est quelque chose qui aussi détruit en soi-même le métier d'influenceur, mais peut-être pour aussi un peu mieux le faire renaître. Mais je pense que même entre influenceurs, On ne doit pas être super heureux de, quand on fait ça un peu plus proprement avec des vrais influenceurs, d'avoir des faux influenceurs comme ça qui arrivent à négocier des contrats avec des marques.
Oui, alors ça, c'est la situation dans laquelle on est. C'est une situation un peu ubuesque. Et donc, la profession, je sais pas si on va commencer à appeler ça une profession, hein, influenceur. Donc, la profession des influenceurs s'active et est lancée dans une chasse aux sorcières. On a vu notamment, il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Ruchon, qui est un YouTuber, qui a sorti une vidéo que je vous invite tous à lire. Et on vous mettra d'ailleurs en note de cet épisode l'URL qui s'appelle « La vérité sur les influenceurs ». Entre parenthèses, fake, dans lequel il explique exactement. Il a fait une enquête qui vaut vraiment le coup d'aller voir comment il a débusqué un certain nombre de comptes de faux influenceurs, etc. Et c'est assez accablant. De la même manière, on voit actuellement pas mal d'influenceurs, que ce soit sur Insta, sur Twitter, qui utilisent le hashtag balance tes stats, qui sous-entend chers confrères Instagrammeurs, vous aussi ayez le culot de montrer vos statistiques et de montrer que vous êtes un vrai influenceur.
Bah, tu m'étonnes, quand il y a effectivement 40%, comme on a dit, des influenceurs qui sont touchés par l'achat de likes ou de followers, forcément, 40%, c'est presque la moitié des influenceurs qui ont dans leurs followers ou dans leurs likes du faux. Donc, c'est difficile pour les marques de faire la distinction entre les vrais et les mauvais influenceurs. Donc, après, on a quelques techniques quand même pour arriver à déceler tout ça. Il y a déjà aussi avoir une relation de confiance, hein, j'ai envie de dire, entre les marques et les influenceurs avec qui ils travaillent. C'est important que ça soit sur la durée et que ce soit pas juste un coup de pub comme ça une fois et puis c'est tout, puisque c'est souvent là qu'on tombe sur des faux influenceurs. Mais il existe plein d'autres techniques dont tu vas peut-être aussi nous parler.
Ouais, alors pour trouver les techniques, comment débusquer un faux influenceur, on peut déjà revenir à comment on devient un faux influenceur. Alors déjà, pour devenir un faux influenceur, il faut pas avoir beaucoup de scrupules, ça c'est la première chose. Ensuite, on va en général passer par une ferme à clic, on appelle ça. Hein, donc ce sont des robots qui permettent d'aller cliquer sur nos publications. On va pouvoir même acheter des followers. Objectivement, c'est ultra simple et avec un billet de 50€, on peut faire grimper son compteur de façon dingue. On peut aussi se rapprocher de ce qu'on appelle un pod. C'est quelque chose d'assez connu sur Instagram. C'est donc un regroupement d'Instagrammeurs qui s'appliquent ensemble à travailler pour truquer l'algorithme. Donc il existe plein de méthodes qui sont objectivement peu coûteuses et qui permettent assez rapidement de monter son compteur de followers.
J'imagine que les plateformes Facebook, Instagram ou même Twitter doivent pas être très très heureux de ces fake influenceurs sur leur plateforme, parce qu'on peut s'imaginer aussi que l'argent que certains payent pour avoir des fans ou des followers, c'est de l'argent qu'ils mettront pas dans des campagnes de publicité, par exemple auprès de Facebook ou d'Instagram.
Oui, c'est certain que les plateformes font le ménage. Hein. Ça, c'est devenu... là, en ce moment, on est en pleine purge sur Twitter. Les compteurs s'affolent, mais à la baisse, hein, pour certains. On va appeler ça la grande purge de juillet. Instagram, depuis déjà un certain temps, travaille le shadow banning, c'est-à-dire qu'ils bannissent certains comptes qui ont vraiment des comportements... de type robot, et puis hormis ça, ils vont même rendre invisible un compte dans l'algorithme parce qu'il a des comportements suspects. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment on peut débusquer un compte influenceur. C'est là-dessus que les plateformes se basent pour décider si oui ou non vous avez un comportement suspect. La première chose que tout le monde peut faire, c'est aller jeter un petit coup d'œil sur un compte à 20 millions et aller voir la qualité des commentaires en réponse au post. Et bien souvent, quand il y a eu des comportements d'achat de commentaires par des bots, etc., on va voir la qualité des commentaires à la baisse et en général pas dans la langue de la personne qui poste, etc. Donc ça, c'est des signes évidents. Ensuite, on va pouvoir aussi, si on enquête un petit peu plus, et c'est ce que fait très bien Guillaume Ruchon dans sa vidéo YouTube dont je parlais, c'est voir l'évolution du nombre d'abonnés dans le temps. Et si on voit des pics phénoménaux, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Et puis, l'ultime élément pour débusquer un faux influenceur, c'est le taux d'engagement. Et là, on en revient à ce qu'on disait au début, la problématique du ROI pour une marque. Si ton taux d'engagement, c'est-à-dire le ratio entre le nombre de likes ou de commentaires sur ton compte Insta par le nombre d'abonnements, si ce ratio-là est à la marge, ben c'est signe qu'on est en général sur un faux influenceur et que le ROI pour une marque sera extrêmement faible.
Oui, je pense que c'est un petit peu la première chose à regarder. Hein, le taux d'engagement, c'est quand même quelque chose d'assez simple à voir. Et voilà, on peut s'imaginer que si un compte a 20 millions d'abonnés et a 10 likes sur, ou même 50, ou même 70 ou 100, on peut se dire que dans ces 20 millions, soit sa communauté n'en a rien à faire de ce que cet influenceur fait. Et dans ce cas-là, à quoi bon lui faire porter des choses ou lui vendre, enfin la payer pour qu'elle mette en avant notre marque. Ça sert à rien si personne n'aime ce qu'elle fait ou regarde ce qu'elle fait. Donc c'est sûr que le taux d'engagement, c'est un premier pas qui est je pense le plus important. Il y a des marques qui se sont un petit peu quand même réveillées contre tout ça. Je pense notamment à Unilever en premier, qui est quand même le deuxième plus gros annonceur mondial avec un budget marketing de 7,7 milliards d'euros. Donc c'est quand même énorme. Et ça a été un peu les premiers à dire stop, on en a marre de se faire de payer dans le vent des faux influenceurs, quoi.
Oui, donc Unilever a vraiment jeté un pavé dans la mare et c'est un peu à partir de là que tout s'est déclenché. Hein. Forcément, Unilever, c'est Dove, Magnum, enfin c'est un nombre de marques considérables qui investissent des budgets faramineux sur des influenceurs et qui se sont rendus compte qu'au milieu de tout ça, bah, ils étaient en train de se faire berner. Donc ils ont haussé le ton. C'était au Lyon Cannes cette année. Le directeur digital marketing d'Unilever a poussé un coup de gueule, on peut le dire. Et donc forcément, quand on est influenceur et qu'on a son premier on pourrait dire son premier client, hein, parce que finalement les marques sont un peu les clients des influenceurs, on se pose des questions sur ses pratiques et on en vient à défendre sa profession.
Oui, puis on imagine qu'avec un tel budget, ils ont dû quand même se faire carotte un petit peu d'argent par cette communauté de fake influenceurs. Voilà, moi ce que je remarque aussi, c'est que le métier d'influenceur est en train de se professionnaliser. C'est sûrement ça qui va faire qu'il n'y aura plus de faux influenceurs. Tout à l'heure, je parlais des plateformes, du coup, des réseaux Facebook, Instagram, qui doivent voir ça quand même d'un très mauvais œil, tous ces faux influenceurs qui utilisent leur plateforme pour gagner de l'argent. On en a déjà parlé, mais la nouvelle plateforme d'influence marketing de Facebook, elle va aussi dans ce sens-là, de répertorier du coup les influenceurs, et Facebook aura encore plus les moyens, eux, de vérifier si c'est des influenceurs qui font vraiment le boulot ou si c'est des fakes. Et ça fait partie, du coup, c'est un premier pas, je dirais, vers la professionnalisation du métier d'influenceur. Mais il y a d'autres marques, comme aussi Accor Hotel, qui a carrément créé une charte. Donc maintenant, quand elle travaille avec des influenceurs, elle fait signer cette charte aux influenceurs, dans laquelle la marque elle-même promet de respecter certains engagements, et quand l'influenceur signe cette charte, il doit aussi respecter certains engagements. Donc c'est comme une sorte d'espèce de premier contrat influenceur, entre guillemets, ce qui n'existait pas vraiment avant au final, puisque avant les influenceurs, on les payait un peu comme ça, quoi.
Ouais, c'est vachement intéressant ce qu'a fait Accor Hotel. Je pense que c'est un peu une première. Jusqu'à présent, on avait ce genre de garantie semi-contractuelle en passant par des plateformes de mise en relation entre influenceurs et marques. Là, c'est une marque qui prend les devants et dit, à l'avenir, voilà comment ça va se passer, la règle du jeu. Et évidemment, la question des fake followers et des fake influenceurs fait partie de ces sortes d'engagements contractuels, de cette charte Accor Hotel. Moi, pour conclure tout ça, je pense que c'est un sujet sans fin et on aura l'occasion d'en reparler. Je crois que deux choses prioritaires, c'est Quand on est lancé dans une opération d'influence marketing, quand on souhaite enclencher une opération d'influence marketing, commencer par enquêter en amont, il faut faire un bon sourcing d'influenceurs. Et pour ça, il y a des plateformes qui peuvent aider, mais rien ne vaut un coup d'œil humain et aller jeter un coup d'œil sur ces comptes influenceurs avec un œil expert. Et puis ensuite, je pense que le maître mot, c'est de privilégier ce qu'on appelle le perfect match. Plutôt que le volume, c'est-à-dire aller chercher les influenceurs qui vraiment ont quelque chose qui va porter ma marque, etc., et qui ne sont pas exclusivement un compteur que j'achète. Donc cette professionnalisation, je pense que tout le monde l'appelle de ses voeux, les influenceurs eux-mêmes, et peut-être même que dans quelques temps, on verra des influenceurs carrément balancer leurs data, leurs stats, quand ils seront en relation avec une marque. Aujourd'hui, si on achète de l'espace publicitaire ou de l'espace d'affichage ou même du contenu éditorial sponsorisé dans un site, on accède à un certain nombre de stats qui nous permettent de savoir si on peut croire ou pas sur parole ce site. Peut-être qu'il sera, j'espère qu'il arrivera la même chose un jour sur les influenceurs.
Ouais, je pense que les influenceurs qui font déjà partie d'agences, puisque ça existe maintenant, des agences qui regroupent les influenceurs et qui font l'entre-deux entre les marques et les influenceurs, alors peut-être qu'ils vont prendre un petit peu cher avec l'arrivée de la plateforme de Facebook d'influence marketing, mais ces agences-là font déjà ce travail-là au final de data sur les influenceurs afin qu'ils aient dans leur propre agence des influenceurs sains pour pouvoir les vendre aux marques avec une certaine garantie. Donc ça peut être aussi une solution pour une marque de passer de toute manière par une agence, soit d'influence marketing, mais même une agence de communication digitale qui va avoir un œil expert sur tout ça justement et qui va pouvoir trouver les bons influenceurs qui correspondent aux marques.
Voilà, absolument. Et je pense que là, tu vois, ça me donne une idée d'un prochain super délit. C'est que là, on a parlé faux influenceurs. Et je pense que il y a un autre sujet qui est celui de la relation entre une marque et les influenceurs. Comment je choisis les sujets? Qu'est-ce que je peux imposer, pas imposer, etc. C'est ce que Accor Hotel a commencé un petit peu à travailler dans sa charte. Et je te propose qu'on en parle sur un prochain épisode de super délit. Concluons pour aujourd'hui. Super épisode. Merci à vous. On espère que vous avez passé une très bonne journée. Un très bon moment, passez une très bonne journée. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Adjan, si tu peux rappeler ça.
Oui, @supernatif, donc sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Spotify. Donc voilà, on est un petit peu partout. Il y a de la musique à écouter. Il y a aussi un podcast à écouter, celui que vous êtes en train d'écouter maintenant. Et vous savez que vous pouvez le retrouver sur Apple Podcast. Donc voilà, on est tout simplement partout. Vous ne pouvez plus nous rater. Et on vous dit à demain. Ciao.